Vous êtes sur RTL.
RTL Soir commence maintenant, Marc-Olivier.
Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, It's a Boy, il est né, le Royal Baby, la compagne du prince Harry. Meghan a donné naissance ce matin à 6h26 à un petit garçon de 3,3 kg. C'est le prince Harry en personne qui a annoncé l'heureuse nouvelle dans leur propriété de Windsor. Le bébé et la maman se portent bien, on attend maintenant le prénom. Ce nouvel héritier prend la 7e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Dans RTL Soir, nous serons au Royaume-Uni, où cette naissance fait du bien, en plein Brexit. Et à 19h, notre monsieur royal, Stéphane Bern, avec nous dans RTL Soir. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquier. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Ils vont devoir répondre de 35 morts, 35 suicides à la fin des années 2000 chez France Télécom. 10 ans après, les anciens dirigeants et l'entreprise sont poursuivis pour harcèlement moral. Le procès s'est ouvert tout à l'heure à Paris. Un homme en garde à vue après l'enlèvement d'un petit garçon de 2 ans à Marseille. Il n'explique pas son geste. Les images de vidéosurveillance posent beaucoup de questions, vous allez l'entendre. À suivre également un père mis en examen pour tentative d'assassinat sur sa fille trisomique. La République En Marche et le Rassemblement National à égalité parfaite dans notre dernier baromètre Harris Interactive, 21,5% d'intention de vote. Et puis le début du Ramadan ce lundi, un mois de jeûne pour les musulmans, même au travail. La Bourse de Paris, elle termine ce soir en forte baisse d'1,18% à 5483 points. Les courses à Chantilly, il fallait jouer le 14, le 10, le 13, le 2 et le 9.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, après l'ouverture du procès des ex-dirigeants de France Télécom, on va se demander s'il y a eu un avant et un après dans la lutte contre la souffrance au travail. 18h20, 1 million d'espèces menacées d'extinction après l'alerte rouge de l'ONU sur la biodiversité. Le cri du cœur de Nicolas Hulot, l'ancien ministre et l'invité exceptionnel d'RTL Soir. Puis direction les coulisses de l'actualité, IKEA fait sa révolution. Le numéro 1 mondial de l'ameublement ouvre un magasin en centre-ville. On vous y amène en coulisses. 18h30, Alain Duhamel et ce soir la bataille des élections européennes. 18h35, Lourdes, comme vous ne l'avez jamais vu, chaque année des millions de pèlerins confient leurs maux et leurs peines à la Vierge. Thierry de Mézières et Alban Turley ont recueilli leurs prières et leur histoire dans un film bouleversant qui sort mercredi au cinéma. Ils seront avec nous tout à l'heure. 19h15, 20h, on fera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Un temps calme pour demain et plus doux. Il était temps.
Une amélioration avant le retour d'un temps très agité à partir de mercredi. Une amélioration avec déjà un temps sec pour demain et un ciel lumineux sur la plupart des régions. Ce sera plus nuageux dans l'après-midi et même de plus en plus nuageux avec quelques pluies sur la côte atlantique entre la Bretagne et Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. C'est donc une nouvelle perturbation très active qui traversera le pays mercredi. Puis les températures enfin repartent à la hausse après les nombreux records de froid ce matin. 1 à 10 degrés pour demain matin et 14 à 23 dans l'après-midi, 14 à Langres, 16 à Brest, 17 à Paris, 18 à Nantes et 23 à Toulouse.
À tout à l'heure Patricia.
RTL Soir.
Alors voilà, enfin, The Royal Baby is born. Meghan Markle a donné naissance à un petit garçon.
Oui, il était temps, hein, on commençait à se poser des questions vu que ce bébé était annoncé pour le mois d'avril. Il a pris son temps, mais il a bien fait. 3,3 kg et il est en pleine forme. Harry est apparu tout à l'heure devant chez lui à Windsor, tout sourire, heureux comme un jeune papa.
Je suis ravi de vous annoncer que Meghan et moi, nous avons un petit garçon. Il est né tôt ce matin. Maman et bébé vont très bien. C'était une expérience incroyable. Nous sommes aux anges. Le bébé est né en retard, donc on a eu le temps de penser au prénom. Mais on n'a pas encore choisi. C'est la prochaine étape. Et puis après, on vous montrera le petit à tous dans 2 jours en famille.
Et on est impatients. On retrouve maintenant à Windsor la correspondante d'RTL au Royaume-Uni, Marie Billon. Marie, la naissance a été annoncée cet après-midi, mais en fait, le secret a été bien gardé. Hein. Ce bébé, il est né très tôt ce matin.
Et oui, il est né à 5h26 ce matin, très précisément. Alors franchement, Harry et Meghan sont passés maîtres dans l'art de la cachotterie. Hein. Si l'enfant tient de ses parents, ça va être sympa à l'adolescence. Car l'innocent bambin a poussé ses premiers cris sans que les sujets de Sa Majesté ne l'entendent. Et Buckingham Palace était dans le coup. Le palais a envoyé un communiqué à 15h04 pour dire que le travail avait commencé très tôt ce matin. Tout le monde, bien sûr, a compris que la duchesse était en plein accouchement, mais point du tout. Elle était déjà en train de bercer son nourrisson. Et une seconde communication, 36 minutes plus tard, l'a confirmé. Ainsi, bien sûr, Harry lors de sa déclaration à la presse, où il avait l'air encore tout secoué par le miracle de la naissance. En tout cas, le bébé est un bon bébé, 3,5 kg, et apparemment, il est né comme le voulait Meghan, à la maison, dans le cottage de Frogmore, à l'ombre du château de Windsor. C'est en tout cas là que se trouve la petite famille en ce moment. Alors bien sûr, il est possible que Meghan ait eu un traitement à l'anglaise, hein, qu'elle ait accouché à l'hôpital et qu'elle soit déjà sortie. Ça n'est pas impossible, mais peu probable. Sa maman, Doria Raglan, est à ses côtés, a précisé le palais, et le royal baby aura d'ici quelques jours la visite de son arrière-grand-mère, la reine.
Très bien, Marie Billon à Londres pour RTL, et qui dit royal baby dit Stéphane Bern, il sera avec nous à 19h. Il aura fallu 10 ans, le procès des suicides à France Télécom s'est ouvert à Paris cet après-midi, Isabelle.
Entre 2008 et 2009, 35 salariés se sont donné la mort, parfois sur leur lieu de travail. À l'époque, un vaste programme de restructuration était en cours avec à la clé 22 000 suppressions de postes sur 3 ans, près de 20% des effectifs. Pour la première fois, une grande entreprise française est jugée pour harcèlement moral. Sur le banc des prévenus, les dirigeants de l'époque, notamment l'ancien PDG Didier Lombard. Alice Moreno, vous suivez l'audience pour RTL au Palais de Justice de Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Pour la première fois, les dirigeants et les familles se retrouvent face à face.
Oui, et la confrontation est douloureuse pour les victimes présentes cet après-midi, comme pour Béatrice qui a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail en 2011. Elle avance d'abord d'un pas déterminé à la barre, longe les bancs des prévenus où sont assis les ex-dirigeants de France Télécom. Quand la présidente lui demande de décliner son identité, l'ex-salarié fond en larmes, puis tourne les talons en jetant un regard à l'ex-PDG Didier Lombard.
J'ai vécu un moment quand même fort, parce que j'ai pu voir Didier Lombard à un mètre de moi. Et je peux vous dire que quand je suis repartie, j'étais en larmes. Au moment de partir, je me suis plongée les yeux dans les yeux. Et quelque part, j'ai la satisfaction aujourd'hui d'avoir pu voir cette personne par qui tout mon malheur est arrivé depuis 10 ans, d'avoir pu être confrontée les yeux dans les yeux quelques secondes. Ça a duré quelques secondes.
Assister au procès fait partie d'un processus de reconstruction, dit-elle. En face, les prévenus font profil bas quand les juges détaillent ce dont ils sont soupçonnés. Manœuvre d'intimidation, instauration d'un climat de travail anxiogène. Tous écoutent sans se manifester. Les mains dans le dos, les chines légèrement courbées. Dans ce face-à-face délicat, une psychologue est dans la salle à disposition des parties civiles pour toute la durée du procès.
Au Palais de Justice de Paris pour RTL, Alice Moreno. Nous partons maintenant pour Marseille. Toujours beaucoup de questions après l'enlèvement d'un petit garçon hier.
L'enfant de 2 ans et demi a été retrouvé quelques heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement. Il se trouvait avec son ravisseur dans un hôtel de Valence, dans la Drôme. L'homme, âgé de 25 ans, est actuellement en garde à vue, mais il est incapable d'expliquer son geste. Il apparaît plutôt perturbé. Il a enlevé le petit Osnachi à la sortie d'une salle de prière dans le quartier de la Canebière. L'enfant avait échappé à la vigilance de sa mère. Étienne Baudu, vous avez pu visionner les images de vidéosurveillance, des images assez troublantes.
Oui, et une vidéo qui dure un petit quart d'heure. Il n'est pas question là d'un enlèvement brusque et rapide. On voit l'homme arriver du bas de la Canebière. Il s'installe à l'entrée de cette petite galerie commerciale dans laquelle se trouve la salle de l'église évangélique. Il pose une canette de bière, allume une cigarette et s'assoit sur un potelet. Saada gère un magasin de vêtements. Sa caméra de vidéosurveillance prend la galerie en enfilade. Il repasse les images.
Bon, qu'il restait presque 15 minutes avant que le petit arrive. Il parle tout seul, il est un peu bizarre. Mais il a peut-être bu, ouais. Peut-être, ouais. Là, on voit le gamin. Il vient de sortir et il est parti vers le monsieur qui était assis.
Et c'est étrange, on a l'impression qu'ils se connaissent. Le petit va même, semble-t-il, se blottir contre l'homme qui est toujours assis.
Là, il va lui parler, je pense. Bah alors là, il a pris la main du petit. Ils vont s'asseoir tous les deux. Le monsieur, il est en train de fumer sa clope tranquille. On dirait que c'est son père.
Et pourtant, on le sait, c'est faux. Et puis ensuite, on le voit, sans aucune contrainte et sans violence, il prend la main du petit Osnachi.
Voilà, ils vont partir tous les deux. Direction Saint-Charles, je pense.
Et une minute à peine après, on voit la maman sortir de la galerie. Elle s'inquiète, elle ne voit pas son enfant. Mais il est trop tard.
À Marseille, donc, pour RTL, Étienne Baudu.
6 pompiers de Paris ont été présentés à un juge d'instruction après des accusations de viol en réunion. Ils sont placés sous le statut de témoins assistés. C'est une étudiante norvégienne qui affirme avoir été abusée par plusieurs hommes à la caserne Plaisance dans le 14e arrondissement.
On y revient dans le journal de 19h.
RTL Soir, il est 18h09.
On va marquer une pause et dans un instant, un homme mis en examen pour tentative d'assassinat sur sa fille trisomique.
RTL Soir. Il est 18h10, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et c'est un drame familial qui a failli coûter la vie à une jeune femme de 24 ans, une jeune femme trisomique.
Un père de famille de 55 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Le 19 avril dernier, au Sable d'Olonne en Vendée, il a précipité dans l'océan la voiture dans laquelle se trouvait sa fille. Il affirme qu'il voulait également mettre fin à ses jours, Raphaël Vantard.
Exactement, c'est ce que cet homme a dit aux enquêteurs après une déception amoureuse. Il ne voyait plus d'avenir pour lui et sa fille trisomique, c'est ce qu'il aurait aurait poussé il y a une quinzaine de jours à mettre sa voiture sur une cale de mise à l'eau sur une plage des Sables d'Olonne. Heureusement, le véhicule s'est enlisé dans le sable. Il est 5h du matin lorsque ce père de famille de 55 ans prévient une habitante du quartier. Les secours et la police arrivent rapidement. La jeune fille trisomique de 24 ans est sauvée par les pompiers. Ce qui reste assez troublant, c'est que ce père de famille était en dehors du véhicule lorsque les policiers sont arrivés. C'est pour cette raison que le procureur de La Roche-sur-Yon a ouvert une enquête pour assassinat. Le père de famille a été mis en examen, placé en détention provisoire. Geste désespéré d'un père ou tentative d'assassinat déguisé. L'enquête est désormais aux mains d'un juge d'instruction.
Raphaël Vantard. Emmanuel Macron a clos le grand débat. Désormais, c'est Édouard Philippe qui prend le relais.
Le Premier ministre réunissait aujourd'hui à Matignon un sommet social rassemblant les syndicats, le patronat et des associations. Il a lancé, selon ses termes, une mobilisation générale pour l'emploi et l'écologie. Mais pour l'instant, rien de concret. Prochain rendez-vous en juin pour des mesures, peut-être en septembre. D'où un certain agacement de Pierre Canet, il est le représentant des associations environnementales.
À quand les engagements, à quand les décisions, alors que cela fait près de 2 ans que finalement l'ensemble des organisations ont mis sur la table des solutions, ont mis sur la table des mesures. Nous allons dans le mur climatique. Alors ces mesures qui sont sur la table, d'ores et déjà disponibles, si l'on attend le mois de septembre, faudra-t-il attendre 2020 pour les mettre en œuvre ? À ce jour, silence radio du côté du gouvernement, même suite à cet échange avec l'ensemble des représentants des corps intermédiaires.
Le représentant des associations environnementales au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Édouard Philippe, qui va prêter main forte ce soir à Nathalie Loiseau, elle est en meeting à Caen.
La candidate de La République En Marche pour les Européennes en a bien besoin, sa campagne patine. Dans notre dernier baromètre Harris Interactive pour RTL, LCI et Le Figaro, sa liste est désormais à égalité parfaite avec celle du Rassemblement National avec 21,5% d'intention de vote. Olivier Bost, vous êtes à Caen pour RTL. Toute cette journée, la candidate a tenté de relancer la machine à grand renfort de symboles.
Oui, la journée a commencé sur un site d'Arianespace ce matin dans l'Eure. Donc c'est clair, là où sont conçues des fusées européennes, Nathalie Loiseau veut faire décoller sa campagne.
Très optimiste, très dynamique, très combative aussi. Croyez-moi, je suis dans cette bataille et j'ai bien l'intention de la gagner. Le vrai lancement, c'est maintenant.
Ensuite, Nathalie Loiseau s'est rendue au mémorial de Caen. Là, le symbole, c'est la paix en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre les extrêmes encore aujourd'hui pour le secrétaire d'État Gabriel Attal.
J'ai pas envie que le 27 mai, les Français se réveillent avec l'image du Rassemblement National envoyé en Europe comme ça avait été le cas en 2014. On a vu ce qui s'était passé depuis, c'est-à-dire rien. Ils n'ont rien voté et toutes les avancées qui ont été obtenues sur les travailleurs détachés, sur la directive droit d'auteur et autres, elles l'ont été parce que la majorité, le gouvernement s'est mobilisé.
Enfin ce soir, Édouard Philippe, le Premier ministre, fera son premier meeting pour soutenir Nathalie Loiseau. Et ne dites pas à Stéphanie Yoncoutin, maire de Saint-Comté en Normandie et 13e sur la liste des Européennes, que c'est parce que la campagne patine.
Non, ça patine pas du tout. Alors je ne sais pas du tout où on a vu ça. D'ailleurs, en général, quand quelque chose patine, on ne vient pas soutenir, quoi.
La semaine dernière, c'est quand même le chef de l'État, Emmanuel Macron, inquiet devant les sondages, qui a demandé à tous les ministres de s'impliquer dans la campagne.
Olivier Bost à Campo RTL.
Et dans notre baromètre, les Républicains restent loin derrière les deux premiers à 14% d'intention de vote. Le PS plafonne à 5%. Autrement dit, il pourrait n'avoir aucun élu au Parlement européen.
Et pour terminer, Isabelle, une pensée pour les quelques 8 millions de musulmans de France.
Oui, car aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Un mois à jeûner de l'aube au coucher du soleil. Pas toujours facile, surtout quand on travaille. Vous l'avez vérifié, Agnès Bonfillon, avec ce chauffeur de VTC.
Sadek, 39 ans, n'a rien changé à ses habitudes. Il a pris son service ce matin à 7h30. Le plus dur ?
Je suis habitué à prendre mon petit café le matin. On sent le manque de caféine, donc du coup, on est un peu dans les vapes.
Il va falloir quelques jours avant que son corps ne s'habitue. En attendant, il reste attentif.
Quand je vois que je manque un peu de concentration, je fais des pauses. Des petites pauses de 10-15 minutes. J'essaie de descendre ma voiture, de marcher un peu, prendre un peu l'air pour rebooster.
Sadek va aussi faire moins de sport.
Je faisais 3 heures par semaine. Là, je ferais une heure et demie, pas plus.
Ce père de famille insiste, le ramadan n'est absolument pas une épreuve.
On est obligé de jeûner. C'est le troisième pilier d'Islam. On le fait avec plaisir.
Ce soir, Sadek sait déjà ce qu'il mangera avec son épouse au coucher du soleil.
Traditionnelle soupe avec des bourreks, c'est des feuilles farcies avec de la viande. Après la suite, quelque chose de léger. Grillade avec des légumes pour ne pas agresser l'estomac, quoi.
La rupture du jeûne aura lieu à 21h30.
Reportage d'Agnès Bonfillon. À tout à l'heure, Isabelle, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. 10 ans après les suicides de France Télécom, le procès de ses ex-dirigeants s'est donc ouvert aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé dans le traitement de la souffrance en entreprise? Comment lutte-t-on aujourd'hui contre les burn-out, Éric Vanier?
Alors, le code du travail reste vague. S'il précise bien que les entreprises ont l'obligation de protéger leurs salariés contre les risques psychosociaux, il n'impose aucun moyen à mettre en œuvre. C'est laissé à la libre appréciation des employeurs. Même dans les grandes entreprises, aucune contrainte d'en faire un sujet de négociation avec les délégués du personnel ou de mettre en place un plan de prévention, contrairement à d'autres thématiques, comme par exemple l'égalité professionnelle homme-femme.
Éric, même si rien n'est obligatoire, comment les entreprises traitent ce sujet du burn-out alors ?
Alors celles qui ne se réfugient pas dans le déni font souvent du cas par cas, du sur-mesure, en proposant à la personne en souffrance au travail, par exemple une autre organisation de son activité, ou une autre affectation, ou une avance sur congé s'il y a derrière un gros coup de fatigue. Les rares entreprises qui élaborent des plans d'action globaux le font souvent en dernier recours quand elles sont confrontées à une vague de suicide, comme ça a été le cas à France Télécom, à La Poste ou encore à Eiffage.
Merci Eric Vanier.
RTL Soir, il est 18h17.
1 million d'espèces menacées d'extinction. Vous avez bien entendu, 1 million. La survie de l'homme est donc en jeu. Après le rapport alarmant de l'ONU et le G7 environnement qui se déroule à Metz, le premier invité exceptionnel de RTL Soir, dans un instant, c'est Nicolas Hulot.
RTL Soir.